Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier podcast de forum.com. Je suis Addy Boy et je serai votre hôte pour cette session, accompagné de mes deux compères Travis.
Bonjour à tous.
Et Metal Neo.
Salut.
Alors, au sommaire de cette première émission, nous allons aborder nos coups de cœur 2016 en matière de séries et de films. Et nous allons également parler de nos prévisions 2017 pour les deux mêmes sujets. On va commencer de suite avec nos séries préférées de 2016. Metaneo, à toi.
Eh ben écoute, pour moi, je pense que la plus grande révélation de cette année, ça a été, évidemment, je pense pour beaucoup d'entre nous, la série Stranger Things, qui a été une grosse révélation pour moi en termes de toutes mes attentes. C'est le genre de série vraiment qui m'a surpris. Ouais. C'était... Parfaitement réalisé, vachement bien joué, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé, quoi.
Ouais, pareil, c'est vrai que de mon point de vue aussi, ça a été un énorme coup de cœur. J'aime beaucoup cette ambiance années 80, très Spielberg, façon itique qui a été installée par les showrunners. Ils ont réussi à me faire apprécier, Winona Ryder en train de hurler tous les épisodes, donc franchement c'est pas mal. La galerie de personnages est super cool, les enfants jouent vraiment de façon magistrale, ils sont très très bons.
La musique aussi, genre Carpenter.
De Survive, un groupe que je t'enjoins à écouter parce qu'ils sont vraiment très très bons. Donc ouais, c'est vrai que c'est un gros hit quoi de l'année 2016, Stranger Things.
C'est une belle production Netflix. Moi, je mettrais un petit bémol, hein, il faut toujours un petit bémol, sur la toute fin de la série, qu'on va pas dire parce qu'on veut pas spoiler, mais ça a été diffusé.
D'un autre côté, franchement, si en 2017 t'as pas regardé la série, bah tant pis pour toi, quoi.
Oui, c'est vrai. Bon, on va pas se mettre des gens à dos alors qu'on vient de commencer. Mais oui, voilà. J'ai trouvé ça bien, j'ai trouvé ça même... très très bien, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder. Effectivement, les enfants ils portent la série,
Surtout la fille,
Millie Bobby Brown, quelque chose comme ça.
Exceptionnel.
Elle est excellente. Winona Ryder, pareil, excellente. Même le shérif,
qu'on
avait vu dans The Newsroom, qui n'était pas exceptionnel, parce qu'il n'avait pas un rôle.
C'est vrai, au début, tu te dis vraiment qu'est-ce que c'est que ça va, c'est quoi ce rôle, qu'est-ce que ça va être, et puis au final, ça devient un des personnages clés que tu as vraiment envie de suivre et qui lui-même s'implique dans l'histoire. C'est inattendu, quoi.
Puis surtout, il n'a pas le profil type du shérif héros, quoi. Il est un mec qui boit, qui fume comme un pompier, qui a du bide.
Ouais,
à première vue, il couche avec des prostituées ou des trucs comme ça, puisque dans un épisode, on le voit dans sa baraque avec une meuf qu'on n'a jamais vue avant et qu'on ne verra plus jamais après.
C'est un peu le cliché du anti-héros quand même.
Ouais.
D'ailleurs, la série, aussi bonne soit-elle, elle est pleine de clichés qui fonctionnent super bien.
Je ne suis pas contre les clichés quand ils marchent très bien. C'est le but de cette série, c'est de se retranscrire dans les années 80 à une époque où on n'est plus du tout dans les années 80. Et de prendre toutes ces choses qui ont marché à cette époque-là, qui ne pourraient plus marcher dans les films d'aujourd'hui. Je suis désolé, tu prends certains des concepts qu'il y a aujourd'hui et tu les mets dans des films comme Triple X ou des merdes qu'on voit au cinéma toutes les deux semaines, ça ne marcherait pas. Et là, c'est la première série développée en 2016 qui se projette dans les années 80 et qui le fait parfaitement bien, quoi. Parce qu'elle se base sur tous ces clichés qu'elle n'en loupe aucun. Oui, il ne marche peut-être plus aujourd'hui, mais dans le contexte de cette époque-là, il marche parfaitement.
Ouais. Le contre-exemple, ce serait un peu les séries comme Mad Men qui ont plongé dans des époques un petit peu... qui commencent à dater, des années 50, 60, etc. Qui n'utilisent pas forcément tous les clichés et qui y arrivent très bien. Je pense que la bonne utilisation des clichés de Stranger Things, c'est parce que c'est fait intelligemment.
C'est fait par des fans des années 80, voilà. C'est des gars qui ont grandi pendant cette époque-là comme nous.
Je
ne
dirais pas
ça
forcément aux années 80. Moi, je dirais que c'est juste bien exécuté, et à tous les niveaux, le scénario, les acteurs, la musique aussi. La musique, du générique est exceptionnelle.
Dès que le premier générique a démarré, moi, ça y est, j'étais scotché, quoi. C'était parfait, que ce soit même l'image. Tu vois, c'est le logo Stranger Things qui apparaît comme ça.
Néon rouge.
Néon avec l'image ternie aussi, qui on dirait que tu es en train de regarder une VHS.
C'est génial. Exactement.
C'est vraiment génial. Puis là, les gamins qui jouent à Donjons et Dragons, tous ces trucs-là, moi ça me replonge dans une ambiance que j'ai parfaitement connue et qui me manque au final.
C'est un des meilleurs points, mais c'est aussi pour moi un des griffes que j'ai envers la série, j'en ai qu'un en fait, c'est que même si c'est très bien fait, ça reste extrêmement facile par moment.
C'est ça.
C'est-à-dire
c'est classique, voilà. C'est hyper efficace, mais très classique. Voilà,
c'est très classique, c'est très facile. Il y a des scènes qui sont quasiment pompées, plan sur des passages de films. Je pense notamment à Alien dans le dernier épisode.
Ou E.T.
Désolé, les gamins sur des vélos avec quelqu'un qui passe par-dessus. C'est vrai que ça fait très E.T.
Mais bon. C'est assumé aussi, c'est totalement assumé.
C'est assumé, ça marche. Mais du coup, il faut que pour la saison 2, je pense qu'il y ait quand même quelques éléments de surprise qui viennent un peu bousculer cet aspect simplement. C'est nostalgique, c'est bien.
C'est clair. Je pense, de toute façon, eux-mêmes, j'espère qu'ils en sont conscients, qu'ils sont attendus au tournant parce qu'ils ont fait sensation avec. Et maintenant, ils se disent, j'espère qu'ils se disent qu'il ne faut pas rester sur nos lauriers et refaire la même chose. Il faut un peu se développer.
J'espère pour eux qu'ils vont avoir cet état d'esprit-là.
Ouais.
Du coup, Travis.
Ah, mon coup de cœur 2016, donc, c'est pas vraiment Westworld, mais je vais garder Westworld. C'était plus VUA, mais je vais pas être tout seul à en parler, je crois. Enfin, je vais être tout seul.
C'est vrai que j'ai pas encore démarré.
Bon, donc je le dis très rapidement, regardez VUA, c'est très particulier, mais c'est vraiment génial. Et Westworld, c'est pour moi déjà un classique.
Déjà un classique.
Dans le scénario, dans la production, dans les idées qu'il y a derrière les histoires principales, c'est vraiment poussé. C'est pas parfait, on est d'accord. Il y a plein de trous dans l'intrigue, ok, c'est vrai. Il y a plein de choses un peu, voire même incohérentes, mais c'est vraiment très très soigné et très très beau et passionnant. Je trouvais ça passionnant. Et les acteurs, pareil. Donc voilà, on ne va pas resituer Westworld, je pense que tout le monde est familier avec la série maintenant, mais voilà, moi c'est un coup de cœur en tout cas.
Mais quand tu dis futur classique, c'est futur classique un peu contesté à la Lost, hein, ou vraiment série qui sera...
Si on en est à dire que Lost n'est pas un classique, alors là, je vais hurler, ça va faire saturer le micro.
Lost est un énorme classique, mais c'est un classique dont le final, par exemple, est très contesté.
Mais c'est très lostien comme série, à tous les niveaux. Au niveau des personnages, même les androïdes, hein, ils sont très... très humain au final.
Oui, plus humain que l'humain.
C'est très lostien dans l'intrigue.
Et c'est pas pour rien que J.J. Abrams s'est impliqué aussi. Hein.
Voilà, il est producteur. Ouais. Mais effectivement, il y a vraiment une empreinte Lost qui fait aussi que ça me plaît beaucoup.
Ah oui, moi je suis d'accord aussi. Hein. C'est vraiment une série qui m'a énormément plu. Et pour moi, ce qui m'a le plus, ce qui m'a le plus impressionné avec cette série, c'est que j'ai trouvé que c'était une façon magistrale d'éditer, de raconter une histoire par l'édition. Par le montage, exactement. Je cherchais le mot exact. C'est vraiment une preuve de montage magistral, quoi. Ça a été extrêmement bien réalisé. Je pense que dans quelques temps, je prendrai plaisir à le regarder d'un œil nouveau en me disant, ok, maintenant que je connais l'intrigue, maintenant que je sais comment ça a été fait, je vais l'apprécier un peu plus et je vais encore plus voir le travail qui a été mis dedans.
Je suis pas fan des Blu-ray DVD, mais là, pour le coup, avec les commentaires, ça doit être passionnant.
Ça doit être intéressant. S'ils sont bien faits.
Oui, s'ils sont bien faits. S'il y en a, etc. Mais bon.
Que ce soit pas juste le teaser de la saison
2. Je suppose que oui, j'espère en tout cas.
Ouais.
Parce que ce serait vraiment un plus pour l'achat des Blu-ray et DVD.
Ouais,
franchement.
Oui, ça devient un peu indispensable ces derniers temps, quand même, au niveau bonus.
Et toi, Dubaï ?
Du coup, moi, vu que j'adore la vie, vu que j'adore les petites fleurs, les bonbons sucrés, ma série 2016, c'est BoJack Horseman. Voilà. Donc, un dessin animé pour adultes qui raconte...
Clairement pour adultes.
Qui raconte, pour les gens qui ne connaîtraient pas BoJack Horseman, qui raconte donc l'histoire d'un cheval anthropomorphe, ancien héros de sitcom dans les années 90, qui est tombé en quelque sorte au fin fond du gouffre médiatique, qui est alcoolique, déprimé, et qui essaie de s'en sortir par l'écriture de son autobiographie grâce à un ghostwriter, un nègre. Mince, j'ai dit nègre. On va être censuré. Voilà, qui essaie de s'en sortir et donc ça raconte son quotidien de star un peu déchu. Ça aborde des sujets extrêmement sérieux comme la dépression, la peur de la mort, la peur de l'abandon, la peur de l'amour tout simplement aussi. Et c'est abordé de façon très juste. C'est fait en grande partie parce que les personnages sont incarnés par des acteurs. Enfin, les acteurs de doublage sont tous très bons. Quoi. Ouais. Will Arnett, qui incarne Jack Horseman, est absolument fabuleux.
Il y a Alison Brie,
Aaron Paul, qui joue son colocataire imposé depuis déjà quelques années, qui s'est installé. Donc voilà, c'est une série qui, ne serait-ce que pour son générique, que je trouve absolument génial. Il est magnifique, quoi. C'est sur un morceau de musique ultra enivrant. C'est quelque chose de qu'il faut voir, quoi. Voilà, tout simplement. Donc si vous avez plus de 18 ans et que vous n'avez pas des envies suicidaires, bah, je vous conseille vraiment de regarder BoJack Horseman.
Ouais, c'est une série très drôle et effectivement avec du second degré, même du troisième degré, etc. C'est pas juste du Family Guy ou du
ah non, oui,
du Simpson, etc., qui sont aussi pour adultes, hein, peut-être aussi un peu pour enfants, encore que Family Guy.
Ça va plus loin, quoi.
Ça va plus loin.
Oui,
non pas que je critique Family Guy, que j'aime beaucoup, mais là, c'est vraiment très recherché. Ça fait penser un petit peu à Aristide Development. Alors, je dis pas ça juste pour Will Arnett, mais dans l'aspect.
C'est le type de comédie, peut-être, voilà, non, qui est proche. Hein.
C'est un petit peu ça, le type d'humour, j'ai envie de dire, qui me fait penser, en tout cas, moi, un petit peu à ça. C'est très sympa. Et là encore, on retrouve du Netflix.
Donc, après cette partie qui était dédiée aux séries de 2016, on va pouvoir passer à nos films préférés. Donc, retournons dans le même ordre que tout à l'heure. Metal Neo.
Alors, pour les films, je viens de réfléchir, je me suis dit, j'ai quand même j'hésite entre deux films. Je pense que pour moi, il y a deux films qui ont fait sensation cette année. Un en tout début d'année et un plutôt vers la fin. Je vais commencer par celui du début, c'était Deadpool pour moi. Qui avait fait
une belle entrée en matière.
Je pense qu'on était plusieurs à l'apprécier.
Ouais.
Ouais. Travis, on l'avait vu ensemble.
Film très poétique.
Ouais. Ah oui, extrêmement poétique. Quoi. J'aime beaucoup.
Ah oui, ça a l'air. Ben, moi, ce que j'avais vraiment aimé, c'est que... Ça avait vraiment repris l'esprit du personnage, quoi.
Ouais, non, ça à 100%, au moins ils se sont pas embêtés à prendre des gants avec le perso et le film. Ils ont quand même bien posé les coronets sur la table. C'est assez impressionnant, c'est la première fois, ou presque, avec... J'ai d'autres exemples de films en tête.
Mais dans l'univers des super-héros, du moins, fois qu'on...
Ouais, dans l'univers des super-héros, c'est vrai qu'avec peut-être Punisher... Il y avait Punisher Warzone qui prenait pas de gants aussi avec son personnage, et Dredd. La deuxième adaptation de 2012 avec Karl Urban, mais c'est vrai que Deadpool, c'est vraiment un film, c'est un vrai blockbuster, mais qui respecte quasiment à 100% le personnage, quoi. Mmh. Donc pas vraiment une surprise, parce que le marketing a plutôt bien fait son boulot à ce niveau-là, contrairement à des films comme Batman v Superman ou Suicide Squad. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont annoncé, c'était dans le film, en fait. C'était vraiment ça. On sent que Ryan Reynolds s'est vraiment impliqué dans le projet. Il y tenait à fond. Il avait vraiment envie, quoi. C'est ça qui... Et ça participe beaucoup à tout le fun qu'il a dû prendre sur le tournage, parce que ça se ressent, en fait, dans ce qu'on voit à l'écran, quoi, très clairement. Et j'ai hâte de voir la suite, quoi.
Moi aussi, je dois avouer que j'ai un peu peur que c'est plus le même directeur.
C'est plus Tim Miller.
Ouais, c'est plus lui, il s'est barré, donc c'est un peu inquiétant pour la suite, de se dire quand même que le trio qui avait vraiment contribué à ce succès, une des pièces importantes de ce trio n'est plus là, quoi. Donc je doute qu'ils vont faire de la merde, hein, ça m'étonnerait, mais voilà, il va peut-être manquer un petit élément magique qui avait été là au début, quoi.
C'est pas faux. Qu'est-ce que t'en penses, Travis ?
J'ai beaucoup aimé aussi. Très, très plaisant, très drôle. Enfin, un film de super-héros avec de l'humour, même s'il y a Guardians of the Galaxy qui est très drôle aussi, mais c'est pas le même genre.
Ça allait plus loin, quoi.
Il n'y a pas tout le second degré, encore une fois, l'autodérision incroyable et la mise en abîme. Même
un film Marvel, des premiers plans, t'as une image de Ryan Reynolds en Green Lantern, enfin, c'est exceptionnel, quoi.
Et je pense que c'est pour ça aussi que Ryan Reynolds, il a bien bossé dessus, c'est parce qu'il avait une image à laver un petit peu après ce Green Lantern.
Je pense que aussi il s'est dit, je vais redorer un peu mon blason et reprendre la place
clairement.
Que je mérite.
Mais voilà, mon seul regret, c'est là encore c'est du chipotage, parce que j'ai beaucoup aimé le film, c'est d'avoir un scénario qui, ok, c'est pas l'attrait principal du film, mais le scénario est quand même léger, hyper convenu. Voilà. Encore une fois, c'est très bien écrit parce que c'est très drôle, très très drôle, mais.
Bon, je pense que malheureusement.
C'est mon problème avec beaucoup de films de super-héros.
Le scénario a malheureusement eu le défaut de suivre, et c'était obligé, mais de suivre un peu cet aspect origin story. T'es obligé d'avoir une présentation du personnage plus importante qu'un vilain, parce que malheureusement, tu peux pas passer trop de temps sur un vilain, sur tout cet aspect-là. Donc là, on s'est basé plus sur l'univers X-Men un peu connu, sur le développement de ce personnage. Sur cette autodérision, ce quatrième mur qui est défoncé à tout va.
Ouais.
Donc voilà, après, faut voir si avec la suite, le 2, les promesses qu'ils sont lancées, hein, un câble, voir si ça tient la route, parce que même maintenant je les attends au tournant, hein, tu peux pas m'annoncer un câble et pas me le fournir après. Quoi, hein.
Ah bah, de toute façon, oui, ça a été annoncé clairement, et c'est une de mes attentes, le scénario sera une de mes attentes pour le 2.
Pour le prochain,
pour le 2, ça c'est sûr. Voilà.
Surtout qu'en plus, les personnes en charge du scénario, a priori, sont pas mauvaises. Quoi. C'est les deux gars qui ont fait Zombieland. Ils ont fait plein d'autres projets. C'est quand même. Bon, le scénario est pas naze, hein, mais il a des lacunes d'origine story. Ouais. Et voilà, c'est pour ça, s'ils sont toujours aux commandes pour le prochain, c'est vrai que là, il n'y a plus vraiment le droit à l'erreur. Quoi.
Non. C'est sûr. Ouais.
Après qu'ils partent dans un. Même dans un gros délire, tu vois. Un scénario, parce que là les enjeux étaient c'était tout simple, c'était la princesse à les sauver, quoi. Finalement c'était Mario Bros version Deadpool, quoi. Mais
ce qui est pas mal, parce que c'est quand même quelque chose qui est jamais vraiment abordé dans les bouquins Deadpool, quoi. Deadpool n'a jamais vraiment de ce côté romance avec sa copine avec à aller chercher ces histoires de romance sont souvent un petit peu plus complexes et même trop complexes avec la mort et compagnie, donc ça c'est des histoires un peu difficile à aborder dans les bouquins, donc c'est vrai que c'est différent de prendre cet axe-là avec ce personnage et de lui donner un but, une personne.
C'est pour ça que je pense que même si on peut s'attendre à ce que le scénario soit un poil plus travaillé sur le 2, il faudra pas non plus s'attendre à un grand scénario façon The Dark Knight
faut pas se leurrer, c'est la Fox en plus, hein,
voilà, c'est la Fox, c'est les responsables de la plupart des films X-Men, enfin des de l'épisode 3 d'Apocalypse. Mais bon, voilà, donc ouais, non, Deadpool, ouais, très bonne surprise. Et du coup ton deuxième,
et du coup mon deuxième qui lui est bien plus récent, c'est Premier Contact. Qui là vraiment est une très très belle révélation. Là j'ai vraiment été scotché par ce film. Je m'y attendais, hein. Franchement je pensais que j'allais sortir de là en me disant que j'allais aimer. Ça avait un aspect visuel, ça avait le pitch qu'il fallait pour me plaire. Je m'attendais pas autant. Je suis sorti de là vraiment avec une belle claque, un beau scénario, une belle révélation à la fin aussi, et une remise en question. C'est un film de science-fiction, mais tu sors de là en te disant en fait pas tant que ça. C'est un contexte. Ouais. La science-fiction est choisie comme contexte, voilà, pour raconter une autre histoire et qui est beaucoup plus personnelle. Très beau film, et franchement encore une fois une belle réussite de Denis Villeneuve, quoi. Qui donne envie de suivre sa carrière d'encore plus près, quoi.
Oui, surtout pour Blade Runner 2.
ça sera peut-être plus tard,
Premier Contact, j'ai pas eu le plaisir de le voir.
Je vous le conseille, hein, vraiment.
Pareil, je l'ai pas vu, j'ai très envie de le voir. Je dis depuis le début que ça va être un film excellent, de tout ce que j'en avais lu, c'était la supposition, mais
j'ai vraiment, on pourrait peut-être dire de moi que je dis que c'est bien facilement. Peut-être vrai de temps en temps, j'ai tendance à aimer les choses assez facilement, mais là pour le coup je pense qu'il y a beaucoup de personnes autour de cette table qui seront d'accord avec moi. C'est vraiment un très bon film, des bons acteurs, c'est bien réalisé, c'est bien fait, une belle image aussi, c'est toujours assez sombre, c'est des tons très monochrome, et ça change jamais vraiment. On pourrait presque y trouver un côté dépressif, mais pas du tout, quoi. C'est super bien utilisé, bien
à l'ambiance, quoi.
Exactement.
Dans tous les cas, ça.
Donc, franchement, je vous le conseille, et j'aimerais bien qu'on en reparle très bientôt quand vous l'aurez vu, parce que il y a des choses à dire.
Volontiers.
Volontiers, absolument. Du coup, Travis.
Alors moi je vais faire plutôt un coup de gueule, j'ai un peu changé la règle parce que j'ai pas de gros coups de cœur à part ceux qui m'ont été déjà.
Il y a pas eu grand chose à se mettre sous la dent, quoi.
Oui et non, oui et non. Certains te diront qu'il y avait Star Wars Rogue One, mais justement, ça va être un peu mon coup de gueule.
D'accord.
Voilà. Je l'ai bien aimé. Je trouve qu'il y a beaucoup de bonnes choses. Mais encore une fois, et on va dire que je me répète, et au final je me répète, le scénario était vraiment trop linéaire et trop cousu de fil blanc depuis, enfin, depuis le premier tiers du film. On voit comment ça va se terminer et on voit tout venir de loin, de très loin. Ça, ça m'a gêné. Ça m'a gêné. Il y a aussi des petites choses qui m'ont gêné que je veux dire.
T'as pas mis Titanic alors, sinon.
Alors, ben, quelque part, Titanic réussit mieux. Et j'ai beaucoup aimé Titanic, j'ai pas honte de le dire. Hein.
Ah, j'adore Titanic aussi.
Très beau film.
C'est vrai que je suis avec le gars qui aime bien Titanic.
J'adore Titanic.
Ah, non, c'est un beau film, faut être.
Non, non, non. Ça, c'est la première heure et demie où.
Il y a des longueurs, par contre.
T'as cette romance bluette. À partir du moment où il rentre dans le glaçon. Là, ça devient intéressant. Quoi.
Oui,
voilà.
Ouais. C'est un très beau film. Mais bon. Et pour le coup, on connaît la fin. Oui. C'est tout ce qui va se passer dans Titanic. Et alors que dans Rogue One, on n'est pas forcément censé le savoir, même si quand même le fait que ce soit un préquel, on a des indications.
Oui, je l'ai vu, bien sûr. Voilà.
Non, parce que là, on va spoiler, hein, je pense. Hein, on va peut-être en parler ou révéler des choses.
On ne sera pas les premiers. On ne sera pas les derniers.
Ouais. Voilà. Donc, et puis, on prévient les gens, donc il n'y a pas de souci.
Mais enfin... Bon. Je suis d'accord, c'est vrai que c'est linéaire, on sait comment ça va se terminer, mais moi ce que j'ai apprécié dans Rogue One, je trouve que ça rétablit, ça, 30 ans plus tard, ça réussit à rétablir quelque chose qui était faible du premier.
Explicite.
J'explicite, et là je vais rentrer dans les détails, c'est là où on va probablement spoiler, mais je suis désolé, l'un des points faibles du premier, même si c'est un super film, et qui a été toujours un point faible, et donc plein de gens se moquent, c'est que c'est le côté genre on a détruit une étoile noire grâce à un petit trou en mettant deux petits photons et d'un seul coup elle a explosé.
Ah, oui.
Et on n'a jamais expliqué pourquoi. Bon ben,
oui.
Je dis pas que ça a été prévu à cette époque-là puisque ça ne l'était pas, mais au moins 30 ans plus tard, on prend le temps d'expliquer et de créer une histoire où on va un peu rétablir tout ça et dire c'était une vengeance. C'est quelqu'un qui a planté ça, qui a mis une faille exprès. Un rebelle, quoi, un vrai rebelle depuis le départ. Et le scénario, il est ce qu'il est, il a ses défauts, il est trop linéaire ou quoi, mais il y a des forces aussi. Il y a des points forts.
Oui, je dis pas que tu dis pas. Clairement, voilà. Clairement, il y a des forces.
Et moi, c'est ça que j'ai vraiment apprécié dans ce film, c'est ce côté donc le personnage de Galen Urso, le père de l'héroïne, qui est vraiment un rôle super important de se dire bah, voilà, je vais faire ce que j'ai pas envie de faire, mais parce que je sais que. Si je le fais pas, il y aura quelqu'un d'autre à ma place qui le fera très bien.
Le fera très
alors
bien,
que moi, je peux faire quelque chose, je peux prendre mon destin en main et peut-être donner une chance aux autres. Et j'ai vraiment apprécié cet aspect-là parce que ça rétablissait, on va dire, une lacune du premier film. Et en même temps, bon, bah, c'était un bon film de guerre, quoi. Il y avait un peu les bons codes de Star Wars, il y avait les bons trucs, c'était sympa, quoi.
C'est là que je te rejoins pas vraiment. Je ne trouve pas que c'était un bon film de guerre.
Ah ouais.
Je trouve que les scènes de guerre à la fin sont un peu limitées. Les AT-AT, on leur dit bonjour, on leur dit au revoir en 30 secondes.
Ouais.
Alors que quand même, c'était vendu là-dessus.
Ouais,
c'était un élément.
Ouais.
Voilà. Et encore une fois, on voit venir, je ne vais pas le dire, mais on voit venir ce qui va arriver au personnage. On le sait une demi-heure avant que ça arrive. Plus d'une demi-heure. Donc c'était un peu dommage, et les personnages en eux-mêmes, c'est que des personnages charismatiques, mais un peu vides au final. Un peu... Ils étaient attachants, ok, même l'héroïne, ils sont attachants, etc., avec son passé. Mmh. Mais je trouve que le problème des Star Wars, en particulier, et souvent des films de science-fiction et fantastique, c'est que les personnages sont pas assez travaillés. Et là, j'ai pas été servi, je préfère encore... Je préfère encore les droïdes aux humains. Mmh. C'est ça, à chaque fois, dans les deux derniers Star Wars, j'ai une grosse préférence pour les droïdes. BB-8 qui est incroyable, j'adore. Et même avant, R2-D2, etc. Ils sont drôles, ils apportent quelque chose en plus. Alors que les personnages, c'est un peu des clichés. Très charismatiques, les acteurs sont géniaux.
Mmh.
Mads Mikkelsen, il est très bien aussi, mais il est sous-exploité. Je trouve qu'il est vraiment sous-exploité. C'est un acteur gigantesque dans Hannibal, etc. Il est sous-exploité, mais vraiment, vraiment, vraiment. Donc c'est dommage. Même le méchant, dont j'ai oublié le nom, qui a fait...
Krennic, directeur Krennic.
L'acteur...
Ben
Mendelsohn, bien joué, qui jouait dans Bloodline et qui est excellent dans Bloodline. Là, je le trouve un peu fade. Voilà. À côté, il y a Dark Vador qui vient tout casser et qui vole le film en deux scènes.
Ouais,
il vole le film en deux scènes.
Ouais, c'est vrai.
Ah, mais c'est Dark Vador.
C'est Dark Vador, ok, ouais, mais pourquoi ne pas faire un nouveau personnage qui est son étoffe, qui est son... Bon, alors je sais, Dark Vador, il a 6 films derrière lui, donc forcément ça aide un petit peu. Mais il était quand même... vraiment 6 films, ok.
Mais le truc aussi, tu vois, faut se dire que je pense que l'utilisation de Dark Vador dans ce film, elle a été aussi là pour rétablir le « NON !» du troisième film, tu vois. Le seul moment où tu vois le casque de Dark Vador dans la trilogie d'avant, où tu le vois comme un petit Justin Bieber, pleurnicheur... Ouais. Donc bon, on l'a un peu rétabli, on l'a remis sur son piédestal en disant j'envoie du sabre à tout va et je contrôle des
c'est
gens.
Vrai, c'est vrai. Mais c'est pour ça que son apparition est très réussie. Pour le coup, elle est même, c'est la scène où il ravage tout, hein, il ravage tout. Et là, c'est jouissif. Alors que c'est le méchant, mais bon, c'est par rapport aux autres, c'est ce qu'on voulait. Là, c'est réussi. Et par rapport à ça, les autres scènes de guerre m'ont paru un petit peu plates.
Un peu fades.
Ok, je comprends.
Ouais, moi, dans les scènes de combat, genre guérilla, j'ai retrouvé justement ce côté guerre civile de l'espace que je m'attendais à voir. Et du coup, c'est vrai que moi, elles m'ont vraiment beaucoup plu, quoi. Les personnages sont, comme tu l'as dit, charismatiques, pas toujours très bien introduits, très bien développés, mais c'est pas grave, tu vois, par exemple Donnie Yen qui incarne le moine aveugle là qui croit dans la force, moi j'ai adoré, quoi, j'ai marché de suite.
J'ai adhéré aussi.
Ouais, et puis
après, au-delà de ça, il a juste une dimension, ce personnage. C'est le gars qui croit en la force.
Mais sa dimension...
Avec son amitié a pas été très développée avec l'autre, et pourtant c'était intéressant.
Ouais, c'était
intéressant. C'est un peu dommage, je trouve que c'est...
C'est dommage, mais le contexte est pris que c'est des personnages qui sont pas voués à être développés, mais ils sont placés dans un univers étendu. C'est-à-dire que si on prend ce personnage donc avec le bâton, je ne me rappelle plus son nom.
Je ne me souviens plus.
Ce qui est important dans ce personnage, ce n'est pas son histoire ou quoi, mais c'est de savoir qui il est. Et dans des films, ce n'est pas un film de la trilogie, mais il s'y insère plus ou moins, on parle de certaines choses qui se passent dans l'univers étendu. Enfin, on parle des cristaux pour les sables. Ouais, les sables. Enfin, on parle de ces fameux temples Jedi. Enfin, on parle donc de cette société dont lui faisait partie, qui était protecteur de ces temples des Jedi. Temples. Et enfin, on parle de toutes ces choses-là, tu vois. Et c'est une façon aussi de se dire, bon, on va pas dans son histoire, mais on parle de ces petites choses que seuls les super fans qui lisent les bouquins ou qui s'intéressent à l'univers étendu ont envie de voir. Donc ça fait plaisir parce que c'est des choses qui ne feront peut-être pas partie des films. Mais dans ces films d'à côté, on en a un petit peu plus pour notre argent, en se disant ils intègrent ces aspects là, quoi, et ça fait plaisir.
J'ai retrouvé le nom du personnage, c'est Daredevil. Le moine.
Matt Murdock, avocat moine le jour.
Pour le coup,
avocat moine.
Rogue One, finalement je l'ai adoré, je l'ai préféré au 7. Et je commence à me dire que ça serait un comble si les spin-offs sont plus réussis que les canons, enfin que ils sont canoniques aussi, mais ceux qui suivent la trame principale. Après, moi j'ai adoré l'apparition de Dark Vador, mais genre vraiment
sa
première apparition
dans un temple Sith, quoi, sur Mustafar,
on aurait dit la tour de Barad-dûr, quoi. Dans le Seigneur des Anneaux, mais
c'est pas faux,
mais non son espèce de bain dans lequel il se trouve, ça c'était vraiment pas mal, quoi. Mais j'ai des gros griefs en fait envers Dark Vador, c'est que en 2016 il est cheap, quoi, Dark Vador.
Ouais, c'est vrai que c'est difficile de retourner un personnage, je suis d'accord.
En termes de costume,
de prestance, quand il marche.
Quand il marche, on a l'impression de voir un vieux, si tu fais attention pendant la scène, il se contente, quand il esquive les tirs de laser, il bouge le bras, mais juste le bras, c'est-à-dire que le reste du corps ne bouge pas, les épaules sont fixes, elles sont coincées, les jambes sont fixes, enfin. Et alors, ok, il démonte tout le monde, mais à côté de ça, il a une espèce de vieille console plastique
Game Boy
rouge, vert, bleu.
Ça m'a choqué, c'est pas mis à jour, ça aurait pu être un petit peu retravaillé. Non, mais retravaillé, pas le changer.
Je peux pas non plus, c'est fracassé, tu peux pas. C'est à la limite, c'est dans un acteur qu'il faudrait que ce soit mieux, tu vois. Par exemple, le moment où il chope Krennic et qu'il
je veux dire,
il a la main cachée derrière sa cape, il se retourne à peine. Je sais pas, moi, tend le bras. fais un truc, enfin, et plus de prestance, cette carrure, ces épaules, ce machin, enfin, je pense que tu peux, parce que voilà, il y a de l'acting qui passe pas, quoi. Et s'il y avait pas de voix, s'il y avait pas une voix associée ou des bruitages, ce serait débile, quoi. Ça semblerait, on dirait un pantin ou un robot, on pourrait croire qu'il y a personne dans ce costume, quoi.
J'ai pas eu ce sentiment là, vous êtes deux, il y a aucun souci, mais ça m'a pas choqué. Ah, par contre, la console, effectivement. En termes d'attitude, il faudrait que je revoie, que je fasse attention.
Ça m'a choqué. Ça me choquait dans les premiers, mais bon, c'était une autre époque.
C'était une autre époque, voilà.
Que maintenant, ce soit toujours le cas.
Alors, pour la même raison que la console, ils ont dû faire la même chose. Hein.
Ils l'ont créé.
Possible. Mais je pense que tu peux prendre le choix de te dire, bon, on va légèrement modifier l'acting plutôt que le visuel.
Plutôt que le visuel.
Parce que le visuel, là, tu te fais défoncer. L'acting, bon, tu dis, c'est des choix de réalisateur, c'est le choix de l'acteur qui est en train de jouer, bon... Mais le visuel, je pense que tu peux pas y toucher. Surtout quand ton film est censé se passer avant le premier film, le tout premier de tous les Star Wars, quoi.
Après, ce que j'ai adoré dans le film, c'est qu'il joue à fond la carte de la nostalgie et il y a plein de clins d'œil qui sont absolument géniaux. Et ça, je me suis retrouvé gamin, quoi, en fait. Il y a un truc qui m'a tué, c'est au début du film, dans la cabane de Galen et de Jyn Erso. Il y a une bouteille avec du putain de lait bleu à l'intérieur. Du lait bleuté. Et en fait, ce lait bleuté, on le retrouve au début de l'épisode 4.
Ah ouais.
C'est-à-dire il y a plus de 30, 40 ans en arrière. Et c'est Luke qui boit ça avec son oncle et sa tante, en fait. Et c'est des bouteilles de lait bleu. Mais Lucas n'a jamais communiqué là-dessus. On ne sait pas ce que c'est ce truc. Mais le simple fait qu'ils aient mis le lait bleu dans Rogue One, j'étais là, ok, d'accord, c'est bien.
C'est ça qui est bien, Rogue One, tu sens que c'est... Enfin, je veux dire, comme le 7 aussi un peu, mais encore plus peut-être dans celui-là, tu sens que c'est un film fait par des fans, des gens qui ont regardé ça depuis qu'ils sont gamins. Tu peux pas nier que toutes les personnes qui ont travaillé sur ce projet, c'est des gens qui se sentent fortement impliqués et qui ont envie de faire au mieux. Après, on est content, on n'est pas content, mais on ne pourra jamais leur enlever qu'ils viennent de faire un Star Wars, quand même. Ça, je pense que pour moi, c'est le maître mot. Ils ont fait un Star Wars.
Ça, c'est sûr. On ne peut pas leur enlever. Ils ont fait un sacré Star Wars.
Et toi, D-Boy,
ma recommandation 2016, du coup, ça a été Céso Utopie. Le film d'animation sorti en milieu d'année, qui raconte l'histoire d'une jeune lapine associée à un renard dans une ville peuplée d'animaux. Ça a l'air tout bête dit comme ça, mais franchement, c'est super bien. C'est pas forcément que pour les enfants. Les adultes peuvent profiter d'une animation absolument impeccable, d'une histoire qui tient la route, qui aborde des sujets assez étonnants pour un film de cette carrure, du genre le racisme, tout simplement, parce que la ville est divisée en plusieurs quartiers, comme par exemple le quartier tropical, le quartier polaire, le quartier du désert, y a forcément des inimités qui se créent entre les différentes espèces. Et on se retrouve avec des animaux de petite taille qui sont discriminés lorsqu'ils vont dans un magasin destiné aux éléphants, enfin bref, ce genre de trucs comme ça. L'histoire tient la route, comme j'ai dit, l'animation est vraiment très très cool. Et puis voilà, donc c'était un bon film. Après, pour reprendre un petit peu ce qu'a dit Travis, moi aussi j'aimerais bien un peu poser mon coup de gueule dans l'histoire. Ça concerne les films de super-héros, tout simplement. Autant au début j'étais super enthousiaste quand j'ai vu le premier Iron Man, que j'ai compris que ça allait balancer l'univers Avengers et compagnie. Et puis progressivement, autant la méthode Marvel continue de marcher, parce qu'il y a toujours des films qui sont intéressants qui sortent, comme par exemple Guardians of the Galaxy, qui fait partie de mon top 3 des films de super-héros. On a eu Iron Man 3, qui était vraiment très cool aussi, qui est un de mes préférés, en grande partie parce qu'il a été réalisé par Shane Black, le créateur de l'arme fatale. Mais à côté de ça, cette année, on a eu les deux catastrophes, hein, on va pas se mentir. On a eu Batman vs Superman et Suicide Squad. Et je me suis dit que c'est vraiment dommage, avec un matériau de base comme celui-ci, d'avoir des films qui sont aussi catastrophiques. Donc ça, c'est pour le côté DC. Pour le côté Marvel, je constate qu'il y a une prise de risque qui est de moins en moins importante. On se contente de faire des origin stories pour Doctor Strange, par exemple.
Ouais, mais d'un autre côté, comment faire différemment, quoi. Tu peux pas balancer un personnage aussi aussi nouveau et inconnu de tout le monde sans lui faire sa propre origin story, tu peux pas.
Mais qui
est... c'est sûr que ça va créer, comme tu dis, un film qui peut-être a des lacunes et qui va être en deçà de tout le reste, mais quand tu introduis un nouveau personnage aussi complexe que celui-là, tu peux pas faire autrement.
Oui, mais c'est un gros pompage sur le premier Iron Man, quoi. C'est, grosso modo, c'est à peu près la même chose. Donc, après, voilà, ça fait aussi partie d'une espèce de ras-le-bol, parce qu'on s'en mange, en moyenne, on s'en mange 6 à l'année, maintenant, entre Marvel, DC et la Fox qui nous sort encore ses X-Men. Bon, Deadpool était très bien, comme tu l'as dit. X-Men Apocalypse, moi, je m'attendais tellement à ce que ce soit de la bouse à jeter que j'ai été relativement bien surpris, quoi. Mais objectivement, il est vraiment pas terrible. Et puis voilà, et ça va pas s'arranger avec le futur, il suffit de voir un petit peu ce qu'a prévu Marvel jusqu'en 2020, pareil pour DC, bon, les Fox, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, donc pas grand chose, mais voilà quoi, dans l'ensemble, je commence un peu à en avoir plein les fesses, quoi, voilà.
Comment ça se comprend? Moi, c'est pas trop le cas. Moi, je suis assez content. Alors, comme toi, je suis très déçu, même si je m'attendais pas à grand chose par rapport à l'univers d'ici. C'est pas un univers que j'affectionne particulièrement. Mais j'avoue qu'il y a un énorme matériel et qu'il y a de quoi faire des très bons films qui peuvent être appréciés de tous. C'est pas le cas. Il y a des gros problèmes avec leurs films. Je pense que tout le monde est au courant, tout le monde a son opinion là-dessus. Mais. Voilà, moi j'ai pas été séduit par les DC. Les Marvel, je trouve que c'est sûr qu'on est plus sur la pente ascendante des premiers, ouais. sur cette ascension fulgurante, mais je pense qu'on est quand même dans un domaine assez stable, de films relativement bien faits, bien produits, toujours intéressants. Voilà, ils sont pas fulgurants, mais toujours intéressants et qui amènent vers peut-être. C'est vrai que leur intérêt, c'est d'amener vers ce nouvel Avengers 3. Avec plein de nouveaux personnages et tout ça, mais voilà, bon, c'est un peu à l'image des bouquins aussi, hein. c'est créer plein de petites histoires à côté pour après faire des crossovers, et bon, ouais, voilà, ils sont assez fidèles et ils le font plutôt pas mal, quoi. C'est pas les meilleurs films, mais dans le lot, il y en a toujours quand même un ou deux qui sortent et qui sont vraiment très très bons, quoi.
Ouais, ça reste un joyeux bordel, relativement bien organisé,
c'est la surenchère aux super-héros. Il y en a de plus en plus par film.
Certes, mais c'est ce qui marche.
C'est ce qu'ils font, donc il n'y a pas d'autre choix, en fait.
Il y a Doctor
Strange d'un côté, et de l'autre côté, il y a les 46 000 Avengers. Ça devient un peu lassant, et je trouve que ça tue le suspense. Alors, on les fait se battre entre eux, mais sauf qu'ils ne se battent pas vraiment entre eux, ou à la scène un petit peu à la fin, je parle de Civil War. Mais au final, il n'y a pas vraiment de... Et le problème de Marvel, c'est là que DC peut tirer son épingle du jeu. C'est le problème de Marvel, c'est les méchants. Il n'y a pas de méchants charismatiques qui valent vraiment le détour.
C'est vrai que la prestation de Cara Delevingne en méchante dans Suicide Squad. Non, c'est vrai que ça, c'était vraiment, c'était vraiment exceptionnel.
Ça relève le niveau, quoi.
Ça relève vraiment le niveau.
Ou même les 5 minutes du Joker, quoi, qui sont.
Ah oui, oui. J'avais oublié qu'il était dedans. Merde.
J'ai pas vu ce film. Et je suis pas fan non plus de Batman vs Superman. Pour le coup, le méchant, à part Lex Luthor, qui est pas mal, mais qui est un petit peu Joker et qui amène un gros monstre un peu ridicule, on sait pas trop comment ni pourquoi. Enfin, j'ai pas aimé cette partie-là. Mais.
T'as pas aimé Mark Zuckerberg en méchant
Mark Zuckerberg.
Qui faisait quelqu'un nerveux.
Le patron.
Non, au contraire. C'est pas du tout ce que je dis. Je dis que j'ai bien aimé
Lex Luthor. Moi, je dis par contre.
Mais non, mais tu peux pas dire ce que j'ai aimé ou pas. J'ai dit que j'ai bien aimé Lex Luthor, que je l'ai trouvé mal utilisé, et que surtout, il est utilisé pour amener le méchant à la fin, dont j'ai oublié le nom, qui était un méchant, Doomsday, qui est assez charismatique dans les comics, assez important. Et là, je pense qu'il y a des similitudes avec les comics, mais j'ai pas été emballé par la genèse de ce monstre. En revanche, le Joker, alors je parle peut-être pas de celui de Suicide Squad, hein, mais le Joker des films Batman, c'est quand même quelque chose.
Non, mais moi, je suis là, tout à fait d'accord.
Si on peut, on va parler, je pense, tout à l'heure de Justice League.
Ouais.
Voilà. Bon. Heureusement que je suis là pour DC quand même, hein, parce que bon, je suis pas grand fan, mais je trouve qu'ils ont des qualités et que Marvel n'est pas parfait, en tout cas.
Non, oui, non.
Justice League, ça a un très gros potentiel. Quand on voit ce que Batman vs Superman, au final, c'est juste une intro à Justice League.
Ouais,
une intro Ah, clairement. Il y a, oui. Il y a des allusions partout. Il y a peut-être même trop d'allusions. Au final, il en oublie sa propre intrigue, ouais. Zack Snyder. Ce qui est un problème, hein. Encore une fois.
S'il oubliait que ça. C'est pas trop grave. Hein, mais...
C'est un point de vue. Moi, ça m'a diverti. J'ai trouvé d'ailleurs le Batman très, très intéressant.
C'est la seule chose qui sauve le film.
Ouais.
Batman était vraiment très sympa. Après, Superman, il a des problèmes, mais il a des problèmes. C'est le personnage, pour le coup, qui manque un peu de relief.
Je pense que c'est le réalisateur, je pense que c'est Snyder, qui au mieux n'a rien compris à Superman, et au pire n'aime pas Superman. Parce qu'il comprend pas le personnage, quoi.
Bon, j'ai du mal à croire qu'il n'aime pas Superman alors qu'il fait des films sur lui, mais qu'il l'ait pas compris. Pour le coup, moi, je l'ai pas compris non plus. Hein, de tout ce que j'ai vu de Superman, c'est le mec qui a tous les pouvoirs, qui est assez invincible à part la kryptonite, point.
Oui,
il n'a pas de personnalité ni rien, il est assez froid.
Il est assez froid, ok. Mais il ne faut pas oublier qu'à la base, c'est un alien, c'est un immigré illégal, quoi, Superman. Et c'est quelqu'un qui cherche désespérément à s'intégrer à la société humaine. Et voilà, à obtenir ses papiers, quoi, d'humain. Et ça, c'est un aspect qui est pas. Enfin, qui à aucun moment dans les films est spécialement mis en avant.
J'ai pas l'impression qu'à aucun moment. Je veux dire, les films parlent un peu de ça, mais. À travers toute la carrière de Superman, si on peut dire ça, il n'y a pas vraiment un moment où on peut vraiment dire qu'il a été extrêmement mis en avant avec du racisme ou quoi que ce soit d'alien. Je veux dire, il est souvent plus vu comme un dieu, plus que un alien qui ne devrait pas être là, quoi. Je veux dire, peut-être c'est la vision des méchants qui vont le considérer plus comme un oh, et regardez, c'est un alien, alors que la population, c'est plus, c'est un dieu, c'est notre sauveur.
Bah, le débat est introduit dans Batman vs Superman, où il est jugé, il est mis au tribunal.
Il est jugé, mais encore une fois, pour ça le va coup, très vite, parce qu'après ça explose, donc, et au final, on revient à zéro, il n'est jamais jugé.
Oui, oui, on est d'accord là-dessus. Mais pour le coup, puisqu'on parle de Superman comme quoi c'est un extraterrestre, etc., si on fait une digression un petit peu compliquée à faire, mais qui est assez logique, si on parle de Supergirl, qui passe en ce moment sur CBS... Yes. Ça vaut ce que ça vaut. Si ça passait sur CBS, c'est passé sur CW avec Flash, Arrow et compagnie. Ça vaut ce que ça vaut, c'est divertissant. Je regarde pas, j'ai regardé le début, mais je trouvais que le personnage de Supergirl, était assez charismatique. L'actrice, elle amenait quelque chose au rôle. Et pour le coup, c'est ce qui manque au Superman en général. On l'avait un petit peu avec Lois et Clark, mais c'était un genre assez particulier. C'était presque de la comédie romantique avec du fantastique.
De la bonne rom-com.
Voilà. Mais ça avait un intérêt. Et le Clark Kent était intéressant, je trouve. Voilà. Pas un grand personnage, hein. Faut pas dire ce que j'ai pas dit. Mais sympa.
Ouais.
Tout ça pour dire que Justice League a un très gros potentiel. Ne serait-ce que par l'intrigue de ce que j'ai vu, de ce qui est amorcé là. Et par le méchant, si j'ai bien compris. Je suis pas un expert en DC Comics. Mais voilà. Je pense qu'il faut donner une chance au film. En plus... Ouais, argument qui ne peut pas être nié, Wonder Woman.
Écoute, on verra ce que ça donne dans son propre film. Hein. Je veux dire, maintenant, moi j'avais un léger espoir avec Suicide Squad avant qu'il sorte. Bon, c'est la troisième fois que DC me déçoit. Je pense que voilà, Wonder Woman, ça va être pareil. Je pense que. Enfin, je vois pas comment ils peuvent rectifier le tir maintenant. Enfin, je sais pas, je pour le moment, je suis plus confiant. Je peux être que surpris. Je continuerai, je pense, à les regarder, mais j'y porte plus autant d'intérêt que ce que je pouvais au DPU.
Ouais, mais je pense qu'au départ, l'univers t'attire moins aussi.
Oui, mais ça veut pas dire que ça m'intéresse pas d'aller le voir. Moi, tant qu'on me donne des films de super-héros, je suis content. Hein. On vit dans une ère maintenant où on peut avoir les trucs qu'on lit, les trucs qu'on aime voir au cinéma, à la télé. Donc moi, tant qu'on m'en donne, je prends. Hein. Regarde, tu dis, je suis pas d'ici, bon, mais ça m'arrive quand même de regarder... Les séries d'ici comme Gotham, Flash, Arrow, voilà, je les regarde quand même. Hein. C'est pas parce que c'est pas l'univers que je préfère que je vais pas regarder. Donc, voilà, moi, Wonder Man, je sais pas si j'irai au cinéma, je sais pas si je dépenserai autant d'argent pour aller le voir, mais dès que je pourrai le voir, je le ferai, quoi. Et pareil pour Justice League, hein. C'est pas parce que j'ai un a priori maintenant que j'ai pas envie de regarder quelque chose et de me faire surprendre.
Ok. Je reste perplexe parce que je trouve qu'il y a beaucoup de fans de Marvel qui sont un petit peu obtus envers DC. Je dis pas que c'est ton cas.
Ça marche dans l'autre sens, sauf que
je connais pas de fans de DC et que je les trouve assez rares pour le coup. Voilà. Et c'est tout.
Si j'étais si obtus que ça, je regarderais même pas.
Enfin, après, il y a aussi le hate-watching. Je dis pas que c'est ce que tu fais, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui le font. Et parmi les commentaires qu'on voit sur Internet...
Oui. Oui,
même si pour le coup dans Batman vs Superman je vous conseille volontiers que il y a des choses qui s'y prêtent vraiment, qui sont vraiment parfaites pour critiquer et pour
quand se manquer. Quand je suis allé voir Batman vs Superman, j'y suis allé vraiment en espérant sortir de là en me disant ça va être un super film. J'en attendais énormément. Parce que ces deux personnages quand même assez iconiques, je me suis dit ils vont se mettre sur la gueule, ça va être super. Je vais peut-être en apprendre quelque chose sur quelque chose que j'avais entendu parler au travers des comics et que je vais voir enfin au cinéma. Bon, j'ai été extrêmement déçu. Ça n'empêche rien au fait que j'aime beaucoup le personnage de Batman. C'est l'un des seuls de DC, de super-héros, que j'aime bien. Voilà, mais oui, je préfère Marvel. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas avoir de la place aussi pour DC.
Pour le coup, Batman, j'adhère pas. J'adhère bien à celui de Ben Affleck, mais les autres Batman, je trouve que c'est un personnage, comme Superman, très monotone,
ouais.
Très sombre, tout le temps avec les mêmes répliques. Tout le temps avec cette obsession pour faire le bien, mais qui a besoin de dire qu'il va faire le bien, c'est fatigant. Je ne suis pas fan du tout. Et Ben Affleck a amené un petit côté sombre à Batman que j'ai... Alors c'est peut-être lui ou c'est le scénario, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, je trouvais que ça rendait plutôt bien et j'aurais voulu en voir plus.
Il faudra voir ce qu'il fera avec son film, s'il le fait.
Ouais, s'il le fait, parce que les dernières informations n'étaient pas forcément très
encourageantes. Ouais, de ce que j'avais lu, apparemment, il a dit que si le scénario était bien, il le ferait.
Ouais, voilà, c'est ça.
Enfin, du moins, il produirait le film.
Ouais,
enfin, il serait réalisateur, parce que je pense que faire Batman, même si le scénar est mauvais, il le fera, parce qu'il y a un chèque derrière. Et je pense qu'il ne va pas cracher dessus, mais réaliser le film, ce qui aurait été un très bon atout pour eux, parce que c'est quand même un plutôt bon réalisateur, ça dépend que du scénario.
Bah oui, qui vivra verra, donc on va arrêter là pour les recommandations cinéma et le bitching sur DC, quoique il va sûrement reprendre tout à l'heure, en fonction de nos attentes. Du coup,
on a déjà démarré un petit peu nos prédictions de 2017,
nos petites prédictions.
Je prédis alors en qualité, hein, parce qu'il y a toujours audience et qualité, il faudra un petit peu préciser de quoi on parle. Je pense qu'en qualité, Justice League sera supérieur, bon je m'engage pas trop, vous me direz, sera supérieur aux trois premiers films DC, qui ont déjà été donc les deux Superman, on va dire, et Suicide Squad. Et okay. je vais même aller jusqu'à dire...
Quand tu dis qualité, tu t'avances sur quoi ? Sur la qualité même scénaristique ?
Sur l'ensemble, sur l'intrigue, la réa, que je trouvais pas forcément mauvaise dans les précédents. C'est juste que c'était pas aidé par le scénario sur certains points, voire les dialogues.
Ouais.
Dans l'ensemble. Je pense que ça va être un film du niveau du premier Avengers, voire mieux.
Okay. Okay. Bah, j'espère bien, hein. Moi je leur souhaite, hein, honnêtement, je suis, quoi, comme je disais, je leur souhaite vraiment, j'ai qu'une envie, c'est d'aller voir des bons films, hein. J'ai pas envie d'aller dépenser 12 balles pour aller au cinéma et sortir à chaque fois en me disant c'est de la merde. Hein.
Oui.
Donc j'ai qu'une envie, c'est d'y aller, de me dire, bon ben voilà, enfin un bon film de leur part. Et je l'espère, c'est juste que vu ce que j'ai vu jusqu'à présent... Je n'y crois plus trop, exactement.
On n'a pas trop le choix, quoi. C'est un petit peu ça. C'est à moins de se forcer et de se dire non, mais ça, c'est forcément bien et le reste, ça va être une tuerie. Force est de constater que, voilà, à un moment, il faut faire un constat et c'est pas terrible pour le moment. Voilà.
Mmh. Qui d'autre avait une prédiction à vous faire ? Moi j'ai fait la mienne,
ouais.
Donc c'était Justice League, donc dans quelques mois vous pourrez me dire que j'avais complètement tort, ça c'est réglé, c'est fait.
Ouais, toi t'en avais une à Dubaï ?
Pour l'année prochaine, niveau prédiction, je pense que Blade Runner 2, 2049, serait une réussite. J'ai envie d'y croire, Blade Runner fait partie de mes films occultes. Le projet pour le moment c'est à coquiner avec de grands noms, quoi, ne serait-ce qu'au niveau du casting. Ils ont remis Harrison Ford.
Il revient un peu partout, lui, quand même. Hein.
Il revient un peu partout.
C'est le revenant.
En fait, j'ai l'impression qu'il refait tous les sequels de tous ces grands films avant de plus pouvoir.
À quand Indiana Jones 5 ?
Bah, c'est fait.
C'est
signé, il a accepté. Hein.
Ah, bah voilà. Bon, bah, génial, j'espère qu'il n'y aura pas Shia LaBeouf dedans. mais sinon, je mets un gros billet sur Blade Runner 2. Denis Villeneuve à la réalisation, donc le monsieur derrière Prisoners, Premier Contact, Incendie, un grand nom, quoi. Je pense aussi que ce type-là va devenir le nouveau réalisateur coqueluche d'Hollywood.
C'est possible, il a une vision.
Voilà, il a une vraie vision et il a un énorme potentiel.
Ryan Gosling.
Ouais.
Gosling.
Ryan Gosling. J'aime beaucoup moi Ryan Gosling.
Ah, moi j'adore. Drive, j'adore. C'est un très très bon film.
J'ai hâte de voir La La Land avec lui d'ailleurs, qui a tout raflé aux Golden Globes. Et puis.
Avec Emma Stone.
Avec Emma Stone, voilà. Donc,
déjà, ça fait deux qualités au film.
C'est ça. Dans tous les cas, on aura de quoi se rincer l'œil, hommes et femmes. Mais sinon, à part ça, bon, bah, pour te reprendre, la Justice League. Je pense que ça va être un gros
fou. Tu ramènes ça sur le tapis quand même. Hein.
On avait fini, mais il n'y avait pas eu assez.
Non, moi je vais à contre-pied.
Il n'y avait pas eu assez de DC bashing. Il a fallu t'en rajouter un petit peu.
C'est ça, non. Non, ben moi je pose mes couronnes. Ça sera un four. Voilà, la teneur de la bande-annonce avec beaucoup trop d'humour à l'intérieur qui rappelle un peu les films Marvel. Moi je me dis putain,
c'est vrai que Marvel a déposé un brevet pour l'humour, hein, donc ils ne peuvent
je comprends ce qu'il veut dire, c'est que c'est quand tu vois quand même que ce soit pour Suicide Squad, je sais pas s'ils l'ont fait pour BVS, mais ils ont rectifié et ils ont refilmé des scènes alors que les films étaient terminés à cause de review mauvaise, ouais, sur pas assez d'humour, ou pas tant mort, ou donc j'ai l'impression que c'est vrai qu'ils font peut-être ce forcing un peu maintenant pour dire c'est bon, on vous a compris, maintenant qu'on est en train de faire le film, vous inquiétez pas, on est en train d'y glisser un petit peu de légèreté aussi, regardez la bande-annonce.
Quoi qu'il en soit, l'humour dans la bande-annonce m'a convaincu. Alors après, si c'est que ça sera un peu too much, ça m'a pas choqué,
hein, contrairement à...
Moi ça m'a fait rire, je trouvais ça plutôt sympathique.
Voilà, ça m'a pas choqué, j'ai trouvé que c'était même bienvenu, qu'il y en ait un petit peu.
Et ça fonctionnait bien avec les acteurs.
Ça fonctionnait bien.
Ce qui n'était pas gagné à la base, hein. J'aurais eu un petit doute quand on voit le côté obscur
de Ben Affleck
et de Batman, le voir dans un registre différent avec ce même personnage, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, plutôt bien joué.
Ça m'a pas choqué non plus.
Ouais, c'est sûr que putain, dans BVS, il est ultra sombre, c'est à peine s'il arrive à arracher un sourire de tout le film. Mmh. Et puis là, en l'espace de deux scènes où il rencontre deux nouveaux caractères, quoi, deux nouveaux personnages, et il balance deux vannes.
Mais
quoi,
tu peux pas lui reprocher d'être monocorde et toujours fade. Et en même temps reprocher dès qu'il y a un petit peu d'autres aspects de la personnalité du personnage qui débarquent.
D'un autre côté, ouais. Quand tu vois à quel point il peut changer d'avis rien que parce que la mère de Superman s'appelle Martha, tout est possible.
Sauf Martha. Ta maman a le même prénom que la mienne, ah, ok.
C'est ça. Bon ben ça va, on est amis alors.
Non, bah ça va. Arrêtons le bashing sur BVS par contre. C'est
toi qui l'as repris.
C'est
toi, hein.
C'est sur Justice League. Mais non, voilà. Après, bon, il y a quand même de gros noms qui vont arriver au cours de l'année 2017. Je pense à Alien Covenant aussi.
C'est pas faux.
Pour le moment, je n'ai pas d'avis. Je préfère ne pas me faire d'avis parce que la bande-annonce a l'air très cool. Mais elle me rappelle énormément celle de Prometheus qui avait l'air très très cool elle aussi. Et au final, on a vu le résultat que ça a donné. Donc je m'avance pas.
Bon, au moins cette fois ça s'appelle Alien,
c'est sûr. Mais je sais pas, le Padre Ridley Scott, je lui fais plus trop confiance. Quoi. Je préfère pas, voilà, pas miser sur lui pas cette année. Quoi.
Bah, pourtant tu mises sur lui avec Blade Runner. Quoi.
Il est pas réalisateur, il est producteur.
Il est sûrement impliqué à un certain niveau. Quoi.
Oui, il est forcément impliqué, ça c'est sûr. Mais bon, allez.
Et pour en revenir à Blade Runner, un peu tes prédictions sur un scénar, sur
Alors un scénar,
où est-ce que ça pourrait aller, est-ce que c'était un réplicant ou pas.
Voilà, moi quand j'avais terminé le premier Blade Runner, l'édition, je sais plus laquelle c'était, la Definitive Cut ou l'Ultimate Cut, enfin vraiment celle qui avait été adoubée par la plupart des critiques et des producteurs, ça laissait clairement penser que Descartes était un réplicant.
Il l'a annoncé, il a dit que pour lui c'était celle qui s'était
fait. Ridley Scott a dit qu'il était un réplicant, et le voir là, dans la bande-annonce du 2, tout âgé, alors que normalement un réplicant a une durée de vie extrêmement réduite, je me demande s'il n'est pas en train de foutre un peu tout ce qu'il a dit à la poubelle. Et bon, ça, le problème c'est qu'on n'en sait rien.
Oui, on n'en sait rien.
On n'en sait absolument rien. Hein. C'est difficile d'imaginer un scénario quand on a si peu d'éléments à disposition. On peut déjà dire que l'univers respectera le premier, ça je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis.
Surtout voilà, avec la vision de Denis Villeneuve, déjà les premières images ça y ressemble fortement, c'est ce qu'on peut attendre d'un film comme ça. Hein.
Donc bon, le scénario non, je ne pense pas, je me concentre sur le fait que ça va être un bon film, voilà, je préfère penser ça. Et toi, du coup, Nathaniel?
Bah écoute, moi, voilà, on va dire, hein, je suis un pro Marvel, mais c'est un petit peu vrai. Pour moi, ce sera les Gardiens de la Galaxie 2. Hein, j'en attends beaucoup. J'ai tellement aimé le premier que voilà, je pense que le deuxième sera lui aussi à la hauteur de mes attentes. Je pense qu'on va bien, bien rigoler, qu'on va avoir une aventure haute en couleur avec voilà, une space saga vraiment énorme qui arrive à s'insérer aussi dans une plus grande histoire. Je sais pas si ce sera le cas de celui-là. Peut-être qu'ils prendront l'occasion pour celui-là de faire vraiment une histoire qui n'aura pas trop d'impact sur le reste de l'univers. Mais dans tous les cas, moi, tout ce que j'attends, c'est de me barrer pendant 2 heures dans l'espace avec cette bande de joyeux lourons, comme tu dis. Et voilà, déjà la bande-annonce est très fun. Je pense qu'il y a tout ce qu'il faut dedans.
Ça, c'est clair, ouais.
Voilà.
On sent qu'ils ont repris
le rendez-vous est pris pour moi, quoi.
C'est du fun assumé et c'est du fun bien fait. J'aime
bien
beaucoup
fait,
ça.
Ouais, exactement.
C'est mon Marvel préféré.
Ouais, je pense aussi. Je pense que si fallait tous un peu les juger, je pense que ce serait lui qui serait en tête d'affiche assez facilement. Quoi.
Et pour rester du côté de Marvel, mais côté Fox cette fois, si je dis pas de bêtises, Logan. Qui s'annonce.
Exactement.
Vraiment. Alors je suis pas du tout fan des X-Men. J'en ai vu très peu, voire aucun, pas en entier en tout cas.
Ouais.
J'ai un problème avec cet univers, mais Logan. La bande annonce m'a convaincu directement.
Ben,
c'est
ouais.
Johnny Cash.
C'est vrai que
ça a dû aider.
C'est leur premier film qui prend un tournant à part Deadpool, mais on peut pas. Deadpool est inclassable, hein, vraiment. Mais c'est le premier film qui se veut rester dans l'univers, mais qui change totalement aussi de cet univers. Ouais. Et qui
me
semble intéressant.
On peut préciser le concept de Logan.
Ouais, c'est, je pense que l'histoire est c'est assumé d'être basé sur l'histoire de Holman Logan, je pense, hein, c'est assumé de leur côté.
Ouais.
Les comics.
Ça ne pourra pas suivre l'histoire de Holman Logan, c'est pas possible, parce que c'est une histoire qui est trop basée, trop ancrée dans l'univers étendu de Marvel, avec d'autres personnages de Marvel et d'autres méchants et tout ça. Donc, ce ne sera pas possible, mais du moins, ce concept d'un personnage vieux et sur sa fin de vie, qui est peut-être cassé et qui a perdu quelque chose et qui va être embrigadé et on va le faire revenir à ses origines et peut-être le faire revivre d'une certaine manière parce qu'il avait tout perdu et j'ai l'impression que c'est un peu cette essence là qu'ils veulent essayer de retranscrire dans le film. Ça a l'air plutôt pas mal fait. Voilà, j'ai mes réserves parce que je suis un gros fan de l'histoire Holman Logan et j'ai peur d'être déçu parce que ce sera pas Holman Logan comme je le veux. Mm-hmm. Mais je suis pas non plus à cracher dessus. Je pense que ça peut être l'histoire X-Men qui peut un peu sortir du lot et peut être la plus intéressante de celles qu'ils ont fait jusqu'à présent, quoi. Je l'espère en tout cas.
L'univers du comic sera difficilement retranscrit.
Ce
sera difficile à retranscrire sur le grand écran, je pense. Mais toi, tu parles d'un Logan qui est cassé. Moi, je l'imagine vraiment brisé, quoi.
J'aimerais bien que ce soit
au bord du gouffre. Et ce que j'espère, c'est parce que je pense que Hugh Jackman. Il n'a pas vraiment communiqué dessus, mais il laisse quand même un peu penser que ça va être un peu le dernier. C'est son dernier. Ouais, on disait
ça. On ne sait jamais si le chèque derrière est assez large, mais il avait été annoncé comme étant le tout dernier film où il devait apparaître. C'était d'ailleurs une surprise qu'il soit apparu dans Apocalypse, parce que ce n'était pas prévu. Son dernier contrat avec la Fox est sur ce troisième Wolverine.
Et du coup, bah, moi, ce que j'aimerais bien, bah, c'est justement, si c'est le dernier, c'est qu'on le voit mourir, quoi, tout simplement. Qu'on le voit disparaître. Qu'on lui accorde les funérailles qu'il mérite, quoi.
Il peut pas mourir.
Personnage, qui...
Son Factor X.
Il peut pas. Il y a un comics qui s'appelle Death of Wolverine, hein, quand même. Hein.
Oui.
Et à la fin, il meurt.
Je l'ai pas lu encore. Spoiler.
Donc, voilà, quoi. Non, c'est vrai que Logan, ouais, il fait vraiment...
Et tiens, spéculation, la petite fille, c'est qui dans Logan?
Ah, bah c'est X-23, non?
C'est communiqué ou pas?
Je crois pas qu'ils ont communiqué dessus.
Je pense aussi que c'est elle, mais il n'y a rien qui est dit.
Ça peut être qu'elle, quoi. Ton avis, Travis?
Oui, tout à fait.
X-23 ou 24,
l'une ou l'autre,
Pour ton info,
la blonde, la brune, la rousse.
X-23 est une Wolverine féminine.
D'accord.
Elle a exactement les mêmes
pouvoirs.
Oui,
ça sent la passation de relais.
Ça sent, ben, quand tu vois Patrick Stewart, Charles Xavier qui lui dit « Allez comme toi ».
Tout vieux.
On
s'en fout de roulant.
Voilà, ça laisse présager que ce serait peut-être une X-23. Ce serait sympa d'arriver à mêler un peu tout ça. Donc ouais, une attente aussi pour cette année. C'est vrai que j'avais pas pensé, mais j'ai bien envie de le voir.
Ok, on va pouvoir passer maintenant aux prédictions série pour l'année 2017. Je vais laisser la parole à Metal Neo.
Ah bah écoute, moi, l'une des séries que j'attends cette année, je pense que c'est un plus pour bientôt, je ne me rappelle plus exactement c'est quand la date, mais c'est la série Légion, qui a l'air assez intéressante. Moi, ce qui me plaît, c'est que c'est la première fois que la Fox...
Ouais.
Fait une série intégrée à son univers X-Men.
Voilà.
Alors, certes, l'univers X-Men n'est peut-être pas l'un des meilleurs univers qui existent, mais j'apprécie le fait de faire une série qui se base un peu sur cet univers et qui traite d'un personnage hyper intéressant qui est Légion.
Voilà.
Et, voilà. Sachant les possibilités que ça peut donner après, je trouve ça assez intéressant.
Alors, n'y connaissant pas grand chose, Légion, je sais que c'est le fils de Charles Xavier.
Tout à fait.
Et du coup, en fait, il est quoi? Il est schizophrène? Il a plein de personnalités?
Il est schizophrène. Et son pouvoir principal étant que chacune de ses personnalités a un
pouvoir X-Men,
exactement.
Enfin un pouvoir de mutant différent.
Exactement. Donc en fait, virtuellement, il peut avoir un peu n'importe quel pouvoir selon ses personnalités.
Ok, d'accord.
Et. Seul truc que je trouve dommage, par contre, c'est sachant qu'ils viennent de faire le film L'ère de l'Apocalypse, ou du moins Apocalypse,
ouais,
c'est pas forcément l'ère de l'Apocalypse, je trouve ça dommage, sachant que dans les bouquins, c'est un arc important de Légion qui a engendré l'ère de l'Apocalypse.
D'accord.
C'est un peu dommage de ne pas avoir pris le parti de peut-être utiliser ça, ou de faire quelque chose... Pour introduire l'ère de l'Apocalypse avec cette série, ou de se baser un peu plus sur les bouquins, quoi. Donc bon, on verra ce que ça donne, mais en tout cas, je suis curieux.
Ouais, parce que finalement, désolé Travis, je t'ai coupé, vas-y.
Non, je vais juste donner la date de Légion, qui est le 8 février sur FX.
Bah ouais, donc ça
arrive très vite.
Ça arrive vraiment très vite. Mais ouais, la première bande-annonce, ou les deux premières bandes-annonces qu'on a eues, là, ça donne bien envie.
Ouais.
Je sais pas comment ils vont l'intégrer dans l'univers X-Men cinématographique, puisqu'on voit aucun acteur connu.
Je pense qu'ils vont pas l'intégrer un peu de la même manière que les séries Marvel, c'est-à-dire que elles vont être annoncées comme faisant partie de cet univers, donc la série va démarrer en disant on sait que les mutants existent, on les connaît, mais on n'y fera probablement pas référence, ils seront pas nommés à part par des petits des allusions,
des easter eggs ou des
exactement.
Ouais,
je pense que voilà, c'est une série qui va se passer dans le même univers. Après, est-ce que l'un aura une influence sur l'autre ou inversement? Ça m'étonnerait. Je pense qu'ils vont pas prendre le risque de faire ça, tout comme Marvel est en train de le faire à l'heure actuelle avec ses propres séries.
Ouais, sur Netflix.
Sur Netflix ou même Agents of Shield. Sur ABC. Voilà, elles font toutes partie du même univers, mais elles se font pas directement référence. Du moins jamais dans le sens de série vers film.
De série vers film.
Dans l'autre sens probablement, mais dans le sens montant, ce sera probablement jamais le cas.
Ouais, c'est vrai que ça sur les séries Netflix c'est pas le cas. Par contre, à Agents of Shield, on a quand même quelques rapports avec les films. Il y a des guests.
Mais c'est un rapport descendant.
C'est l'action films, des films exactement. Qui influe sur le
exactement.
Résultat de la série.
Mais les séries qui font allusion au film,
exactement.
Jamais
l'inverse. Ça le sera probablement
oui.
pas.
Non.
On peut l'espérer peut-être par contre avec les séries Netflix.
Ouais, les Defenders.
Il y a beaucoup de rumeurs, d'espérance, du moins qu'il y ait des allusions à eux qui fassent peut-être partie. D'une petite partie des films Avengers dans le futur, ce serait super.
Ouais, ça pourrait être cool.
Parce que c'est quand même des personnages extrêmement importants et qui font partie de l'univers des Avengers. Hein. Certains l'ont été pendant plusieurs périodes.
Dans les comics.
Dans les comics, exactement. Ouais. Donc ce serait dommage de s'en priver. Maintenant, c'est de la spéculation pour l'instant. Quoi.
D'accord.
Voilà, ça
ouais,
c'est pour moi.
Bah ouais, bonne prévision. Du coup, ma prévision plutôt pour 2017 en termes de série, même si j'ai été relativement déçu par la première saison, j'ai envie de croire en Preacher saison 2. Donc Preacher, série tirée du comics dessiné par Steve Dillon et scénarisé par Garth Ennis. On y suit les aventures, tout du moins dans le comics, de Jesse Custer, donc, qui est un prêcheur. Prêcheur, prêtre.
Ouais.
d'un coin perdu des États-Unis qui rentre en contact avec une entité divine, en quelque sorte, qui s'appelle Genesis et qui lui offre le pouvoir de la voix de Dieu. Donc à partir du moment où il ordonne quelque chose à quelqu'un, cette personne est obligée de s'exécuter, y compris lorsqu'il lui ordonne de mourir, ce qui est quand même assez rigolo. Et du coup, il part sur les routes des USA accompagné de son ex-petite copine Tulip qui a tourné Tueuse à Gages et d'un vampire bicentenaire irlandais qui s'appelle Cassidy. Donc en comics, ça déchire, c'est un des meilleurs, vraiment c'est une des meilleures séries que j'ai jamais lues. C'est super bien scénarisé, il y a toute une galerie de personnages qui sont à la fois effrayants, à mourir de rire, dégoûtants, enfin, il y en a pour tous les goûts, et les couleurs.
C'est pas pour les enfants.
C'est vraiment pas pour les enfants, et du coup, la série qui date de cette année, elle a été scénarisée par Seth Rogen et Evan Goldberg. Donc, à première vue, sur le papier, ça avait l'air très bon. Parce que bon, ils ont un humour un peu décadent, qui collait bien avec l'image de la série. On pouvait s'imaginer que ça allait partir dans du gore, à peu près à l'image, encore une fois, des comics. Mais bon, au final, je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai quand même été relativement déçu. Ça partait plutôt pas mal. Il y a un gros ventre mou pendant les trois quarts de la série. Et puis sur la fin, ça repart un petit peu de façon intéressante.
Je trouvais que c'était plutôt pas mal et même bien, bien fait. Pendant en regardant les épisodes, j'ai pris mon pied. J'ai trouvé ça vraiment génial et dans l'esprit de la série, avec des variations notables mais intéressantes. Et c'est vrai qu'après avoir vu la fin, je me suis dit bon, au final, j'en retiens pas grand chose, je garde pas grand chose de tout ce qui s'est passé, à part peut-être un peu le début et la fin, mais la fin c'est parce qu'elle change tout. Et au final, bon, voilà, j'étais un peu déçu aussi, mais vraiment après. Sur le moment, j'ai pris mon pied. C'était très sympa.
Ouais, moi je me suis bien régalé aussi. J'ai vraiment aimé cette série. Notamment pour les choix qui ont été faits à l'intérieur. Certaines scènes aussi qui sont pour moi parmi les meilleures scènes qu'on ait pu voir cette année. Je pense notamment à une scène de baston mémorable. Dans le motel, enfin si vous l'avez vu, voilà, tout le monde saura de quoi je parle. Mais après, au niveau de l'histoire, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de critiques qui sont lancées sur cette série pour dire que ça s'éloigne des bouquins, c'est pas du tout comme c'était fait dedans et tout. Et moi j'ai bien aimé parce qu'au départ, pareil, je me disais ça aussi, ça prend le concept des personnages, ça prend leur personnalité, mais ça raconte pas la même histoire. Et puis il y a un twist à la fin qui me fait dire que au contraire, en fait, ils ont fait tout ça pour arriver sur la suite,
oui,
à se rapprocher des bouquins,
à ce que ça suive
les voilà comics, et ouais. Ils ont trouvé une manière de démarrer pas comme dans les livres, parce que dans les livres on prend dès les premières pages, on part direct dans l'intrigue, dans l'action, et on s'en fout, c'est pas grave, c'est un bouquin. Dans une série c'est plus difficile, on a besoin de connaître un petit peu ces personnages, on a besoin un peu de les développer, on a besoin de mettre un contexte, et je pense que c'est le parti pris qu'ils ont pris de se dire, bon ben on va construire quelque chose en plus, sous la supervision de Garth Ennis, hein, même, parce qu'il était producteur sur la série, il a eu son mot à dire.
C'est vrai, ouais.
Et
je suis d'accord, sauf que je trouve ça dommage d'avoir construit tout ça. En fait, on va pas le dire pour pas spoiler, j'aime pas les spoilers, mais il casse tout à la fin. Et c'est dommage, notamment en termes de personnages. Ils détruisent un petit peu tout et ils nous ont fait aimer cette petite ville. On en dit beaucoup, mais bon. Et au final, voilà.
Ça va pas rester.
Je trouve ça dommage.
Vu comme la série est un road trip où de toute façon on part de ce point de départ qui est cette ville et après on n'y va pas.
La série n'est pas un road trip. La série pour l'instant c'est une saison.
La série...
Non, je parle de la série télé.
Ouais, la série télé. La série de comics.
C'est là où j'en viens. C'est que la série de bouquins. Les bouquins, eux, partent de ce point de départ et en partent très vite. Ils s'en vont, c'est un road trip. Et la série, pendant la première saison, nous a mis dans ce contexte. Et d'ici la fin de la saison, nous amorce les bases de ce road trip.
Donc en fait, t'es en train de me dire que la saison 1, c'est une introduction.
Exactement.
C'est ça.
Donc pour moi, tu fais pas une saison d'introduction, tu fais un ou deux épisodes d'introduction. Tu fais un épisode d'introduction, ce qui aurait pu, ça aurait pu tenir en plus. Hein, il aurait fallu, là ils ont rajouté de l'intrigue, etc. Et je m'en plains pas, hein, ce qu'ils ont fait avec Arsface, j'ai oublié le nom parce qu'il n'y a pas encore ce nom-là, je crois.
Eugène.
Eugène. Eugène. C'est plutôt sympa. D'ailleurs, ça varie de. C'est pas, je crois pas que ce soit repris des comics.
Non, pas du tout.
C'est très intéressant. Mais pour le coup, je trouve dommage d'avoir fait toute une saison et d'en garder si peu. Ils n'ont gardé que les certains personnages. Donc, c'est un choix. Il y en a beaucoup qui ont aimé, d'autres non. Moi, j'ai, au final, j'ai aimé. J'ai passé un bon moment. Voilà. C'est juste qu'à. Je garderai pas un grand souvenir alors que potentiellement le comic ça, il est marquant.
Ah, le comic c'est vraiment très marquant.
Pour moi, moins marquant. Cette saison.
Cette saison, parce que là, voilà, maintenant on peut l'espérer. Moi, j'attends comme toi, Ladyboy, j'attends beaucoup de cette saison 2 parce que, en plus, vu les interviews, vu tout ce qui a été dit après, ils ont confirmé que tout ce qui est dans les bouquins, ils ont l'intention de le faire. Voilà. Ils ont pas labré là-dessus en disant que la saison 1 elle est comme elle est ou quoi, mais qu'ils n'ont pas oublié. Ils ont en tête tout ce qui se passe dans les bouquins et ils veulent absolument retraduire tous ces événements marquants et tous ces personnages qu'on apprécie tous. Ils veulent tous les faire apparaître dans la série à un moment ou à un autre. Après, est-ce qu'on leur en donnera les moyens ? Est-ce qu'ils auront autant de saisons qu'ils le méritent ? Ça, on verra.
Ouais. Après, pour en revenir sur la série, il faut quand même saluer l'interprétation des acteurs qui est vraiment très très cool. Dominic Cooper en Jesse rend vachement bien, mais c'est un acteur qui de toute façon à peu près tout ce à quoi il touche, ça rend vraiment de façon sympa. Il fait du très très bon boulot. Joseph Gilgun, qui sort de Skins, en vampire irlandais. Misfits, excuse-moi. Lui aussi très cool.
Ah ouais.
Complètement déjanté.
Le bon accent qu'il faut, le bon personnage. Le côté hooligan presque
je m'en foutiste à l'extrême,
ça colle parfaitement au personnage qui est dans les bouquins aussi, hein. c'est vraiment chouette.
Et puis Tulip qui a opéré un changement du coup vis-à-vis des comics, qui donc dans les comics est blonde et caucasienne et qui là se retrouve black quoi, mais j'adore l'actrice Ruth Negga. Que j'avais donc
qui est dans Marvel
Agents of S.H.I.E.L.D. Warcraft aussi, elle est dans le dernier Warcraft
avec Dominic Cooper, c'est ça. Ouais, je me demandais où est-ce que je l'avais
trouvé. Ils sont elle est sœur avec
Anduin
Anduin
Lothar. Donc le trio de tête est vraiment très cool. Le méchant incarné par Jackie Earle Haley, je me souviens,
Rorschach.
Rorschach, pas Staten Island, là, le film avec DiCaprio.
Oui.
Il joue
Shutter Island,
voilà. Il incarne bien le méchant aussi, mais c'est un petit peu étrange parce que l'antagoniste, enfin qu'il incarne, est censé apparaître vraiment très très tard dans la série, quoi. Donc un peu bizarre, mais acceptable. Et après, Eugène, Arceus. Je trouve que après là, une fois de plus, le reste du casting c'est mou, c'est un peu la mention spéciale à l'adjointe de Jesse dans l'église qui ne sert à rien, absolument à rien, à part à te montrer que c'est une mère de famille débordée célibataire qui a fond sur lui, qui se fait royalement ignorer, qui se fait draguer par le maire lourdeau possible, enfin bref. Voilà,
c'est typiquement ce que je regrette au final dans la saison 1, c'est ces personnages là qui ont été un petit peu
rajoutés, sans utilité quoi.
C'est très dur à comprendre, mais bon, c'est pas tragique non plus.
Mais quand tu réfléchis, cette saison 1, c'est vraiment une saison d'introduction. Parce qu'on reste dans le même endroit, il n'y a quasiment aucune évolution pendant les 10 épisodes. Et
dit comme ça, ça donne pas envie, je suis désolé.
Non, mais c'est une bonne introduction quand même, mais. Enfin,
c'est un peu long quand même.
C'est un peu long, mais bon. Ouais, il y a des scènes qui sortent.
C'est un choix en tout cas, c'est bien d'essayer.
Oui, c'est bien d'essayer.
Peut-être
c'est cool.
Peut-être que cette série,
c'est cool,
adaptation.
ça fait très longtemps qu'ils sont dessus, hein, un peu à la manière de Ryan Reynolds avec Deadpool. C'est un projet qu'ils ont voulu faire depuis très longtemps, qui a été entrepris aussi par plein d'autres réalisateurs ou d'autres personnes, et ça s'est à chaque fois cassé la gueule. C'est la première fois qu'une réalisation arrive à terme.
Et peut-être que c'est le choix de leur côté aussi de se dire, on a tellement eu de problèmes avant, il y a tellement de gens qui nous ont pas compris ou qui n'ont pas compris la vision de ce qu'on voulait faire, que peut-être qu'il faut qu'on prenne notre temps et faire quelque chose de plus soft au départ pour arriver là où on veut en venir plus tard.
Je suis pas sûr que ce soit une réussite à ce niveau-là, du coup. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été un petit peu rebutés par cette saison-là.
Des fans, alors.
Pas forcément, je voyais ça sur internet, tu vois, les sites qui étaient vachement enthousiastes au début, qui, genre Combini pour ne pas les citer, qui étaient en folie sur waouh, génial, on adapte Preacher. Et progressivement, au fil des épisodes, on voyait clairement que leur avis était sur la pente descendante.
Sur les sites aussi, les notes, on a tout un système de notation et les notes étaient pas franchement bonnes, notamment vers la fin. Bon, après, c'est des avis qui n'engagent.
Il y a une tendance,
J'étais parmi les seuls à rester positif. Et encore une fois, après coup,
t'es un peu mitigé. Finalement, t'es mitigé. Ouais.
Et voilà donc qui clôture notre premier podcast de forum.com. Nous vous remercions de nous avoir écoutés et nous vous donnons rendez-vous pour donc le podcast numéro 2 qui sera lui dédié aux jeux vidéo. Merci beaucoup et à très bientôt.
À bientôt.
Salut à tous, à la prochaine.